Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous accueillir cette semaine de nouveau sur les ondes. N'oubliez pas, tous les dimanches de 17h30 à 18h. Merci de votre fidélité et continuez à nous dire qui vous êtes. N'oubliez pas que cette émission est la vôtre et que je serai ravie de vous y accueillir. Alors retrouvez toutes les actualités de l'association sur notre site internet mariedenazarethletoutattaché.com. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Annonciation que nous fêterons à une date inhabituelle, demain, 8 avril. Vous nous direz tout ça, Justina. Bonjour Justina.
Oui, bonjour.
Et puis Anne Dabas, bonjour Anne.
Bonjour.
Nous poursuivons cette semaine encore nos échanges autour de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors Justina, demain l'Annonciation, quelle drôle de date, un 8 avril, mais il y a une raison à cela et vous allez nous l'expliquer.
Oui, bonjour chers auditeurs. Cette semaine nous sommes toujours en dehors du cycle apologétique pour la simple et bonne raison que les fêtes s'enchaînent. Et aujourd'hui, la plupart d'entre vous fêtent l'Annonciation. Cette année, en effet, cette fête est reportée d'une semaine car l'Annonciation est fêtée traditionnellement le 25 mars. Mais comme le 5 mars était en pleine semaine sainte de la Passion, le lundi, je crois.
Lundi saint.
Ouais. Après, je dois reconnaître que pour ma part, l'Annonciation, c'est une fête qui, peu importe la tradition liturgique, qui n'arrive jamais au bon moment. Si elle tombe en plein carême, c'est un petit peu difficile, puisqu'on est en carême et avoir une fête, il y a un petit peu cet aspect difficile à vivre. Si elle tombe durant la semaine de la Passion, le report fait de sorte que nous enchaînions une fête juste après Pâques. Dans la tradition orientale, l'Annonciation peut même coïncider avec le dimanche de Pâques. Et dans ces cas-là, on l'appelle Kyrios-Pascha. Donc les deux fêtes en une, l'Annonciation, font totalement dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ouais, c'est assez beau cette union finalement. Et c'est comme ça chez tous les orthodoxes?
Ça peut arriver en fonction du calendrier qui est mobile, hein, en tout cas pour
du
la
reste,
date.
Cette année, quand est Pâques chez vous?
4 mai.
Très bien, on y pensera.
Merci. Mais je vois un certain sens profond, même dans le fait que la fête de l'Annonciation n'arrive jamais au bon moment. Le sens de la fête nous annonce que l'ange Gabriel se manifesta de manière inattendue devant la Vierge Marie afin de lui annoncer la bonne nouvelle, qu'elle serait la mère du Messie. De même que la fête nous tombe dessus comme la neige sur notre tête et nous fait réfléchir. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises cette année dans nos émissions, le dogme de l'incarnation est en soi un concept extrêmement scandaleux, que ce soit il y a 2000 ans ou même aujourd'hui. Il est tellement plus simple de rester dans un modèle religieux où Dieu tout-puissant, où les dieux restent à leur place au 7e ciel ou sur l'Olympe, loin de nous et jouent leur rôle de tyran. Ou bien il faudrait les enfermer dans les statuettes, les nourrir, les amuser, à condition qu'ils ne descendent pas de leur piédestal. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur, comme le disait l'apôtre Pierre. C'est tellement facile d'enfermer Dieu sur son trône lointain et penser que tout va bien. Mais voilà un début de la révolution. Une jeune fille juive, pieuse, qui a grandi dans les préceptes de la loi de Moïse et qui les respectait à la lettre, reçoit une nouvelle. Elle serait la mère du Sauveur. Pardon. Malgré sa peur de voir cet ange étrange avec ses propos pas moins étranges, elle accepte et elle donne son « oui ». Elle a ce courage incroyable de faire confiance à son expérience spirituelle. Tout l'enseignement qu'elle a reçu l'a préparé en cela, en somme. La Vierge Marie n'ira même pas voir un rabbin du village pour lui parler de cette visite. Elle sait pertinemment qu'elle met sa vie en danger. Soyons honnêtes, si une jeune fille, qui est votre fiancée, vous annonce qu'elle est enceinte par l'action de l'Esprit-Saint suite à une visite d'un ange, tandis que vous êtes un homme âgé, et dans la tradition orthodoxe, on dit que Joseph était veuf, donc il sait parfaitement d'où viennent les enfants, est-ce que vous allez la croire sur parole?
Oui, vous avez bien fait de préciser, Justina, parce que chez nous, les catholiques romains, Saint-Joseph n'est pas présenté comme étant veuf. Mais c'est dit dans le proto-évangile de Jacques au IIe siècle, effectivement.
Oui, mais quelle peine est prévue par la loi de Moïse pour une jeune fille fiancée en cas d'adultère, même avant le mariage? La mort. En disant son oui, elle connaît parfaitement les conséquences possibles qui peuvent lui coûter non seulement la vie, mais aussi celle de l'enfant qu'elle porte désormais sur son cœur. Et il ne s'agit pas de n'importe quel enfant, mais du Sauveur tant attendu par la plupart du peuple d'Israël. Certaines traditions orales nous rapportent qu'au moment où Marie aurait reçu la visite de l'ange, elle lisait. Bon, je ne suis pas du tout certaine que ce soit vrai, mais en tout cas, on dit que le livre serait la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Voici que la Vierge serait enceinte et enfantera un fils, qu'elle l'appellera Emmanuel. Vous allez me dire, mais dans la prophétie d'Ésaïe, le prénom du Messie est Emmanuel. Comment se fait-il que l'ange qui visite Marie ordonne de nommer cet enfant Jésus? N'y a-t-il pas une contradiction? Pas vraiment, mais il faut savoir deux choses. Dans les prophéties, nous avons des prémices des choses à venir et non des indications exactes. Deuxièmement, regardons le sens des prénoms. Emmanuel signifie « Dieu est avec nous » et Jésus, Yahushua, Yahvé, sauve. Pour les exégètes chrétiens, ceci est au contraire une raison d'affirmer que le Messie promis n'est pas tout simplement un leader politique et religieux, comme aussi le percevaient les zélotes juifs, mais bien plus que cela, que Dieu est sorti de sa cage céleste où les religieux l'ont enfermé. Il est venu parmi nous pour nous sauver. Malheureusement, cela n'a pas duré. Un Dieu indomptable arrange peu les esprits religieux qui veulent la tranquillité. Heureusement pour nous que Marie, malgré sa piété, oui, je dis malgré sa piété et son éducation parfaitement religieuse, a réussi ce que beaucoup de grands monsieur qui portent des costards cravates, des polos et parfois même des soutanes n'arrivent pas à faire. C'est d'accepter que Dieu est libre de venir à nous comme bon lui semble. Elle est la première à accepter l'idée qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans sa divinité et le chasser au septième ciel. Elle accepte de voir Dieu dans sa faiblesse et sa vulnérabilité d'enfant humain qui vient à la rencontre de l'humanité. La voie pour une autre expérience est ouverte grâce au oui de Marie. L'expérience du christianisme, une anti-religion qui nous libère des religions et de l'athéisme à la fois.
Merci beaucoup Justina pour cet exposé très intéressant, comme d'habitude. Écoutons à présent ce cantique « Pour aller à Jésus » de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La musique est de Bailly. Voilà, nous parlions des cantiques la dernière fois. Nous allons en écouter un.
Que mon âme chante et publie à la gloire de mon Sauveur les grandes bontés de Marie envers son pauvre serviteur. Que n'ai-je une voix de tonnerre afin de chanter en tout lieu que les plus heureux de la terre sont ceux qui la servent le mieux. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons pas Marie. Pour aller à Jésus, c'est le divin secret des élus. Chrétiens, apprêtez vos oreilles, écoutez-moi prédestinés, car je raconte les merveilles de celle dont vous êtes nés. Marie est ma grande richesse, c'est mon tour auprès de Jésus, c'est mon bonheur, c'est ma tendresse, c'est le trésor de mes vertus. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons pas Marie. Pour aller à Jésus, c'est le divin secret des élus. Elle est mon arche d'alliance où je trouve la sainteté. Elle est ma robe d'innocence dont je couvre ma pauvreté. Elle est mon divin oratoire où je trouve toujours Jésus. J'y prie avec beaucoup de gloire, je n'y crains jamais de refus. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons pas Marie. Pour aller à Jésus, c'est le divin secret des élus. Elle est ma ville de refuge où je ne suis point outragée. C'est mon arche dans le déluge où je ne suis point submergée. Je suis tout dans sa dépendance pour mieux dépendre du Sauveur. Laissons tout à sa providence, mon corps, mon âme et mon bonheur. Pour aller à Jésus, allons chrétiens, allons pas Marie. Pour aller à Jésus, c'est le divin secret des
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Anne Dabas, rebonjour. Nous parlons donc aujourd'hui de la spiritualité et de l'enseignement du Père de Montfort, mais aussi nous allons rebondir sur ce que disait Justina. Que dit le Père de Montfort sur l'Annonciation?
Alors, la spiritualité du Père de Montfort, je vais reprendre un autre de ses cantiques,
oui,
qui est très simple, c'est l'Ave Maria. Donc ce que nous disait tout à l'heure Justina, l'Ave Maria, c'est le « Je vous salue Marie », c'est le texte de l'Annonciation. Et le Père de Montfort, il va très loin puisqu'il dit « Par l'Ave Maria, le péché se détruira ». Donc on va déjà commencer à comprendre ce qui s'est passé au moment de l'Ave Maria. Donc il démarre, le Père de Montfort, sur ce mystère de l'Annonciation en disant que comme c'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, c'est également par elle qu'il doit régner dans le monde. Et donc, la deuxième partie de son refrain de cantique, qu'on écoutera peut-être, qui a été mis en chanson par les frères Martineau, c'est donc la deuxième partie, c'est « Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera ». Voilà. Donc, c'est les deux aspects pour lui qui sont importants de l'Ave Maria. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est qu'on va voir, on va aller voir dans les textes de la Bible à quoi correspond cet Ave Maria, ce « Je vous salue Marie », comment Jésus est venu au monde. Et cela nous permettra de bien comprendre ensuite l'affirmation du Père de Montfort sur la manière dont il doit ensuite venir régner dans le monde.
Alors, nous vous écoutons donc ces textes.
Donc, c'est Saint-Luc, dans l'évangile de Saint-Luc,
au chapitre
dès le début, au chapitre 1. L'Ave Maria, c'est le « Je vous salue Marie ». Et le « Je vous salue Marie », c'est le Père Céleste qui adresse cette parole à la Vierge Marie. Il ne peut pas lui adresser, il ne peut pas être en vis-à-vis d'elle parce que aucun être humain ne peut voir le Père Céleste, ne peut voir Dieu le Père. Et donc, il se sert d'un ange pour lui transmettre cette salutation. Mais elle vient bien du Père Céleste qui va lui demander d'être la mère de son Fils. Donc, dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 1, verset 30, l'ange Gabriel arrive. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera. Donc voilà, l'ange Gabriel précise bien qu'il régnera. Et c'est là-dessus que le Père de Montfort va rebondir ensuite sur le règne de Jésus.
Oui.
Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Et il insiste en disant, et son règne n'aura pas de fin. Donc, on peut remarquer que l'ange annonce à Marie non seulement sa future maternité, mais il lui parle aussi du règne de cet enfant à venir, et ce règne qui n'aura pas de fin. Et c'est bien dans ce passage de l'Évangile que s'enracine la doctrine du Père de Montfort sur la venue du règne de Jésus, qui fera suite au consentement de Marie. Car Marie, elle est totalement libre d'adhérer à cette conception divine qui va intervenir en elle. Et en ces temps, on parle beaucoup du libre consentement.
Oui.
Là, on peut affirmer que le Père Céleste, il respecte la liberté de la Vierge Marie. Il va respecter sa consécration dans sa virginité, puisque pour elle, c'était très important d'être totalement vierge et consacrée à Dieu. Et puis, il va respecter aussi l'engagement qu'elle a pris avec Saint Joseph.
Oui, c'est ça.
Puisque la traduction est difficile. Hein. Dans les textes, on dit qu'elle était fiancée, mais en réalité, elle était mariée. Le contrat de mariage avait eu lieu. Et d'ailleurs, il y a plusieurs indices qui nous le disent dans la Bible, où il est dit qu'à ce moment-là, Saint Joseph était son mari, qu'elle-même était sa femme. Et en fait, si on dit fiancé, c'était pour préciser qu'ils n'avaient pas habité ensemble, pour bien montrer que l'enfant qu'elle attendra ne vient pas de Joseph, oui, mais vient bien de Dieu.
Conçu du Saint-Esprit.
Voilà. Ouais. Mais pour parler de ce moment qui est important, de la conception du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, ça se fait vraiment dans le cadre d'un mariage vierge. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore habité ensemble. Et pour faire une comparaison avec ce qu'on peut vivre nous actuellement, oui, c'est un peu le mariage des catholiques qui se vit en deux temps. Il y a d'abord ce temps à la mairie, le mariage civil, qui est le temps du contrat. Et puis voilà, donc on est bien mari et femme, mais tant qu'on n'a pas reçu la bénédiction de Dieu, les deux époux ne s'unissent pas. Ce sera qu'à partir du sacrement de mariage, quelques temps après, qu'ils pourront vivre ensemble. Et donc là, on est dans cette période un peu entre les deux. Oui. C'est, chez les Juifs, ça durait une année, je crois, où il y avait voilà, ce temps du contrat de mariage, puis après le temps où ils habitaient ensemble, qui était le temps de la fête religieuse. Et donc c'est à ce moment-là que l'ange vient faire sa demande à Marie de la part du Père.
Très bien. Alors, donc on le disait, Marie a tous les éléments en main pour répondre avec une totale liberté à la demande de son Créateur. Quand elle dit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Donc Marie a répondu « Oui », c'est ce que nous disions. Et la parole de Marie dans ce contexte est donc capitale. L'ange la quitte et donc là, tout continue.
Alors, avant de la quitter, l'ange, il est un peu dans la retenue puisqu'il attend la réponse de la Vierge Marie.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on on entend rarement ça.
Ah. et le ciel attend puisqu'elle est totalement libre. Ce n'est pas du tout quelque chose d'acquis de la part de Dieu que la Vierge Marie va enfanter son fils. Mmh. Il y a vraiment ce temps de liberté. Alors, elle est tellement pure, tellement donnée à Dieu, que voilà, l'issue ne fait pas trop de doute. Néanmoins, il y a l'épreuve de la liberté chez la Vierge Marie, parce qu'elle a fait quand même cette consécration à Dieu, de sa virginité, et elle tient vraiment à sa virginité. Et donc, c'est pour ça qu'elle sait qu'elle connaît ce que disait tout à l'heure Justina, elle connaît les prophéties, la Vierge enceinte. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde son fils. Donc elle se dit, probablement que ça va se passer comme ça, mais comment est-ce que cela peut-il se passer? Et donc elle demande à l'ange, elle pose cette question. Et l'ange, vous pensez bien qu'il n'a aucune idée de la manière dont ça va se passer. Donc c'est vraiment Dieu le Père qui va répondre à Marie, la manière dont ça va se passer, et qui lui dira, donc je reprends exactement ce que le Père Céleste dit par la voix de l'ange, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Et donc là, à partir de ce moment-là, l'intelligence de la Vierge Marie est éclairée sur le mode opératoire. Et là, elle répond à l'ange. Donc elle lui dit, « Écoute, voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Donc là, elle répond vraiment à l'ange. Et c'est un oui qui est solennel, c'est son fiat, que cela se fasse. Et ce oui, en fait, ce « je suis la servante du Seigneur », il répare en quelque sorte le « non serviam »,« je ne servirai pas », qui avait été prononcé bien avant la création des êtres humains, par l'ange de lumière, Lucifer. Celui qui portait la lumière, voilà, c'est ça, Lucifer, et qui, devant le projet d'incarnation de Dieu, a dit « Non, je ne servirai pas ». Et donc, à ce moment-là, la Vierge Marie, en disant « Moi, je servirai Dieu », elle répare, cette parole, l'affront qui a été fait par l'ange déchu. Et le Gabriel, qui est un ange, qui fait partie de la cour céleste, et ils étaient quand même un peu entachés par ce non serviam qui était une offense à Dieu, de la part de la cour céleste. Et bien là, ils voient que ce non serviam, je ne servirai pas, est réparé par ce je suis la servante du Seigneur. Et pour l'ange Gabriel, il est en admiration et en émerveillement devant cette réponse de la Vierge Marie. Et il comprend, il se prosterne devant elle, il se dit, j'ai trouvé ma reine. Et à ce moment-là, la Vierge Marie, moi je suppose que c'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment la reine de toute la cour céleste.
Alors Anne, tout cela, vous l'avez lu, décrypté, décortiqué dans, chez Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Dites-moi comment il aborde cette partie-là.
Alors, c'est ce que j'ai compris un petit peu de, voilà, de la médiation de la Vierge Marie, du rôle très important qu'elle a, puisque en fait, son oui, quand il dit c'est par l'Ave Maria, c'est par le oui qui répare le péché, l'Ave Maria, en fait, c'est toute la salutation de l'ange et de Dieu à travers l'ange. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et à cette salutation, elle répond le oui. Et donc, c'est bien par cette prière de l'Ave Maria qu'on peut réciter indéfiniment. Le Père de Montfort, il récitait 153 fois par jour l'Ave Maria, le rosaire complet. Oui. Et donc, il dit que c'est vraiment par cette Ave Maria que le péché se détruit. C'est-à-dire que le péché de l'ange, à ce moment-là, a été détruit et réparé par la Vierge Marie. Et après, on verra que, plus concrètement, nous, dans nos vies, eh bien, par l'Ave Maria, moi j'ai été témoin récemment, j'en parlerai peut-être plus tard, mais par l'Ave Maria, le péché, en effet, se détruit.
Alors, il y a une deuxième partie dans le Je vous salue Marie, c'est la rencontre avec Élisabeth. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors ça, c'est un signe qui est donné par l'ange. Donc là, l'ange, il voit ce qui se passe. Donc il n'y a pas forcément une révélation du Père Céleste pour cela. Il lui dit, écoute, je te donne un signe. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, donc ça, il le sait, hein, a conçu elle aussi un fils. Et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Et donc là, la Vierge Marie, elle sait qu'elle va avoir un signe concret. Oui. Parce qu'une fois que l'ange la quitte, à ce moment-là, la conception va se faire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va venir sur elle, la recouvrir de son ombre, et la parole, le Verbe de Dieu, va venir s'incarner en elle. Mais l'ange est déjà parti à ce moment-là. Ça se fait vraiment dans l'intimité de Dieu et de la Vierge Marie. Et donc, aussitôt enceinte, elle part voir sa cousine qui est enceinte, voilà, qui va bientôt accoucher. Parce que pour elle, bon, bien sûr, elle va servir sa cousine, mais pour elle, elle veut voir surtout ce signe. Parce qu'une fois que l'ange l'a quittée, elle n'a aucun signe visible qu'elle est enceinte. Ouais. Et qu'elle porte le Créateur.
Et elle sait qu'en allant voir Élisabeth, elle le sait de façon... Bah, elle l'espère.
Bah, c'est la même chose en fait, l'espérance c'est une certitude, donc elle a la certitude, c'est pour ça qu'elle se met en route aussitôt, on dit qu'elle partit aussitôt,
oui, effectivement,
pour voir Élisabeth, et elle a beaucoup d'entrain parce qu'elle se dit, en effet, si je vois que ma cousine qui était âgée et stérile est enceinte du sixième mois, c'est que voilà, ça confirme que moi-même, voilà, je porte bien le Seigneur, même si elle n'avait aucun doute, c'est qu'on a quand même besoin de signes concrets dans la vie, donc... Et donc, voilà, elle a celui-là. Oui. Et donc, elle arrive, elle part avec empressement dans la région montagneuse, dans une ville de Judée. Et là, elle entre dans la maison de Zacharie. Zacharie, au passage, il a reçu aussi la visite de l'ange Gabriel. Et là, l'ange Gabriel, il a été plus sévère avec lui. Autant avec la Vierge Marie, il est d'une grande douceur, parce qu'il voit que la Vierge Marie, elle est toute donnée à Dieu. Autant Zacharie, lui, quand il lui est apparu, il a fait un peu des siennes en disant « Non, ma femme ne sera pas enceinte. » Et puis, l'ange Gabriel lui a cloué le bec au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il n'a plus pu parler jusqu'à la naissance de son fils. Donc il arrive, Zacharie ne peut pas parler, mais Élisabeth, elle, donc je reprends ce que dit la Bible, « Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. » Donc c'est le petit Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, Élisabeth est remplie de l'Esprit-Saint et Jean-Baptiste aussi est rempli de l'Esprit-Saint. Et Élisabeth, elle voit sa petite cousine qui arrive, enceinte peut-être d'une semaine, donc elle ne peut pas du tout imaginer qu'elle est enceinte. Et c'est le Saint-Esprit qui lui révèle à ce moment-là qu'elle attend la mère du Sauveur. Enfin, qu'elle attend le Sauveur. Et qu'elle est la mère du Sauveur. Voilà. Et donc, à ce moment-là, elle lui est dit, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc, elle a cette parole de confirmation que la Vierge Marie est bien la mère du Sauveur et attend le Sauveur.
Alors, pour terminer, lorsque nous préparions l'émission, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Vous disiez que les paroles de Gabriel et d'Élisabeth dans le « Je vous salue Marie » sont une synthèse des prières des anges unies à celles des hommes. Marie accueille nos prières, mais n'y répond pas directement. Elle les présente d'abord à Dieu dans un esprit d'obéissance, d'humilité et de louange. On voit toute la grandeur de la Vierge.
Oui. Et toute la puissance, on comprend la puissance du « Je vous salue Marie » et de l'Ave Maria quand on reprend cette prière à notre compte, parce que ce sont des prières d'abord qui sont écrites dans la Bible. « Je vous salue Marie », toute la première partie est écrite dans la Bible, donc ce sont des paroles saintes. Et puis qu'elles produisent en fait la réponse de Marie.
Merci beaucoup Anne, c'était très intéressant. Vivement la semaine prochaine pour connaître la suite. Vous évoquerez la vie christique du Père de Montfort. Alors si sur le plan spirituel vous souhaitez prier la neuvaine à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, vous pourrez la trouver en ligne sur notre boutique, sur notre site marie-de-nazareth.com. Cette neuvaine a été préparée par le Père Paulin Ramanandra Raibé, recteur de la basilique de Saint-Louis-Marie de Montfort. Et pour accueillir la sainteté des enfants de Dieu, le Père de Montfort nous propose donc cette voie mariale. Merci Justina, merci Anne.
Merci.
À la semaine prochaine. Au revoir chers auditeurs.